Chers auditeurs et auditrices, ici Dominique Garand. Je vous souhaite la bienvenue à cette première émission d'À nos amours. À nos amours, c'est une émission qui traite de la valeur artistique. Il sera question de littérature et de musique principalement, puisque ce sont les deux formes d'art que je connais le mieux. Mais bien entendu, je suis ouvert aussi aux réflexions qui porteraient sur la danse, sur le théâtre, sur les arts de la scène en général, sur l'art pictural. Bon, alors voilà, j'aurai des invités. Et parfois, je parlerai, comme je le fais maintenant, solitairement, en souhaitant quand même que ce monologue puisse entraîner un dialogue, en souhaitant que vous réagirez et que nous pourrons ainsi réfléchir ensemble. Alors, j'ai dit qu'il serait question de la valeur artistique. Il faut que je m'en explique un peu. Qu'est-ce que je mets dans ce sac? C'est une notion très vaste. Et comme il s'agit d'une notion en réalité que nous interrogeons assez peu aujourd'hui, alors il importe que j'en dise quelque chose d'entrée de jeu pour éviter les malentendus. Alors, il m'est apparu, et là je vais vous dire un peu qu'est-ce qui a motivé l'idée de cette émission, il m'est apparu qu'il serait urgent que nous ayons de vrais débats sur la valeur, c'est-à-dire sur ce que nous mettons en valeur collectivement ou individuellement. Nous pouvons aussi commencer par les individus, par chacun d'entre nous, mais une parole devient intéressante lorsqu'elle arrive aussi à s'exprimer sur la place publique et à se faire valoir de la façon la plus rationnelle possible. Alors, il est question donc, lorsqu'on parle de valeur, d'émettre des jugements, des opinions, mais également, je pense que lorsque nous émettons ces jugements, ces opinions, nous souhaitons aussi rallier les autres à notre point de vue. Toute la question est de savoir sur quoi reposent ces jugements. Alors, il me semble que collectivement, nous ne savons plus très bien, du point de vue artistique, entendons-nous, je m'en tiens à cette question, nous ne savons plus très bien ce qui est bon, ce qui est beau. Vous savez que la question du beau a occupé pendant plusieurs siècles les philosophes, les esthètes. Et aujourd'hui, il semble que ce soit une question laissée de côté. Et je trouverais intéressant, personnellement, que nous fassions retour sur la notion du beau. Certainement pas pour en parler de façon idéaliste, comme autrefois, mais à tout le moins se demander, mais... où se trouve le beau pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui suscite en nous un sentiment de beauté? Alors, je reviendrai là-dessus. Je reviens à ma réflexion de base, c'est-à-dire que il m'apparaît que collectivement, donc, nous ne savons plus très bien où nous en sommes sur cette question de la valeur. Certains diront que cette indécision est une bonne chose dans une société postmoderne. Justement, l'intérêt de ce type de société et de présenter un certain éclatement qui va à l'encontre d'un dogmatisme qui a sévi au cours des siècles précédents, souvent en matière d'art. C'est une classe sociale en particulier qui dominait et qui imposait ses goûts à toutes les autres classes. De ce point de vue, évidemment, je suis aussi d'accord pour dire que l'éclatement des valeurs est une bonne chose. Cependant, ce qui l'est moins, c'est le fait qu'il n'y ait plus de dialogue, qu'il n'y ait plus possibilité d'amener ces diverses positions à s'affronter, même de façon amicale. Alors, c'est une des raisons qui me pousse, moi, à créer un espace public où nous pourrons débattre, où nous pourrons discuter de ces choses qui, sous prétexte d'acceptation des différences, nous pousse à nous éloigner, nous éloigne en réalité de toute forme de discussion. Et ce qui fait que cette fameuse diversité que nous vantons ressemble drôlement à un nihilisme, c'est-à-dire au fait que toutes les valeurs étant relatives, il n'est même plus besoin de les discuter. Chacun aurait son petit monde de valeurs à soi. Alors, il y a quelque chose de pernicieux, à mon avis, dans cette position qui est malheureusement répandue. Pernicieux au sens où, premièrement, c'est une pure illusion. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Quel est le phénomène qui se dessine lorsque l'on refuse collectivement de discuter de la valeur des œuvres artistiques, de créer des hiérarchies, lorsqu'on se refuse à ce travail, hein, à cette confrontation? Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que, en bout de ligne, c'est le marché qui décide pour nous. C'est-à-dire, c'est une espèce d'ensemble anonyme ou un pouvoir, appelons-le comme ça, un pouvoir ne s'exprime pas de façon rationnelle, dont la rationalité est purement économique et qui se trouve à nous imposer des goûts, à nous imposer des produits sans qu'il soit possible d'en discuter. Vous me direz, oui, on peut en discuter. Par exemple, récemment, de quoi était-il question? Du roman Le Da Vinci Code. Nombreuses ont été les interventions pour décrier ce phénomène, pour dire à toute fin pratique qu'il s'agissait d'un roman médiocre. Alors, le problème ici n'est pas dans le fait que les positions qui iraient à l'encontre des valeurs imposées par le marché ne pourraient plus s'exprimer, elles peuvent s'exprimer, mais le phénomène continue malgré tout de dominer les esprits. Et c'est comme si ces voix qui s'élevaient pour dire « attention, voyons un peu qu'est-ce qui se passe derrière ce phénomène, qu'est-ce qui est en jeu », eh bien, ces voix-là, bien qu'elles puissent s'exprimer, sont malgré tout marginalisées et énoncées d'une façon solitaire, c'est-à-dire que ça ne parvient pas à renverser la vapeur. Le marché est toujours plus fort que ces voix-là. Alors, c'est peut-être utopique de ma part de penser qu'avec notre radio et Internet, nous pourrons renverser la vapeur. Je n'ose pas croire aussi loin. Mon acte de foi ne se rend pas jusque-là. Mais j'aimerais beaucoup que nous puissions, quelques personnes, ceux qui seront disponibles pour ce genre d'interrogation, que nous puissions créer une force capable de s'installer quelque part et de faire entendre un autre son de cloche. Maintenant, essayons d'aller un peu plus loin. J'ai jeté en vrac, en introduction à cette émission, quelques idées sommaires, mais qui demanderaient sans doute à être élaborées. Pour l'instant, ce que j'aimerais préciser, ce sont mes intentions en réalité. Sous quel angle je vais aborder la question de la valeur? Premièrement, il faudrait constater ceci, c'est que c'est une réflexion qui déjà est installée au cœur même de nos revues culturelles. Il y a quelques revues, surtout des revues littéraires, qui se sont interrogées récemment sur la critique, sur sa portée, en mettant par exemple en opposition la critique faite dans les médias et celle que l'on produit à l'université, ou encore en s'interrogeant sur les modalités même d'une parole critique et la manière dont on peut sur la place publique débattre de certaines valeurs. Je prends pour exemple un des derniers numéros de Spirale qui avait pour dossier critique de la critique. Également, la revue Contre-jour a produit un dossier portant sur politique et littérature. C'était à l'automne 2005. Et dans ce dossier figurait un article de Catherine Mavrikakis, qui incidemment a également participé au numéro du magazine Spirale. Alors, Catherine Mavrikakis, dans son texte intitulé « Le dogme de l'Immaculée Conception », revendique ce qu'elle appelle un dogmatisme variable, un dogmatisme temporaire, provisoire. Elle dit que c'est une chose qui manque cruellement dans le monde de la culture québécoise. On prend trop de gants blancs, on est trop mitigé, on cherche toujours la parole juste et équitable. Et en bout de ligne, cela donne une critique, selon elle, un peu ennuyeuse. Alors, elle aimerait beaucoup qu'il y ait davantage de prise de position, des positions plus affirmées, même si, après quelque temps, celui qui défendrait ses positions serait amené à les modifier, à les rejeter même. Alors, c'est sans doute un article sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites par Catherine Mavrikakis qui nécessiteraient un retour. Et justement, notre émission a cette fonction-là. C'est ce que je désire en faire. J'aimerais beaucoup qu'on fasse écho à ce qui se raconte, soit dans les médias, soit dans les revues culturelles et même dans certains écrits plus pointus. J'aimerais beaucoup que ces paroles qui émergent et ces voix qui tentent de se faire entendre reçoivent ici un accueil, que l'on puisse leur donner un second souffle, qu'on puisse les relancer. Alors, voilà une des fonctions de cette émission. Maintenant, essayons d'aller un peu plus loin, de faire un pas en avant. Est-ce que Catherine Mavrikakis a raison de dire qu'on est en manque de dogmatisme? Qui dit dogmatisme dit opinion énoncée ex cathedra, souvent de la part de quelqu'un qui occupe une position de pouvoir. Il semble pas que ce soit la chose qu'elle ait en tête lorsqu'elle en parle. Moi, je nuancerais son propos. Je dirais que ce sont, oui, effectivement, on est en manque d'opinions tranchées. Par contre, on est surtout en manque d'opinions qui seraient accompagnées d'une vraie réflexion. On est en manque d'individus qui aussi iraient au bout de leurs convictions et chercheraient de la manière la plus éloquente possible à en montrer la validité. J'aimerais donc tenter de faire un pas en avant dans cette réflexion en reprenant cette idée que j'annonçais en introduction, c'est-à-dire cette confrontation entre les différentes instances amenées à produire des jugements de valeur. Donc, j'entends par là les médias. Évidemment, c'est une réalité complexe. Hein. On ne peut pas réduire ça à une seule catégorie. Les revues culturelles, l'université principalement. Il y a des rapports de force qui s'établissent entre ces différentes instances qu'il est bon d'envisager, qu'il faut savoir aussi se représenter en voyant quelles sont les modalités d'une prise de parole et de quelle façon l'une ou l'autre de ces instances réussit à se faire entendre. En ce qui concerne les médias, évidemment, ça va de soi. Ils ont un certain pouvoir de diffusion que n'ont pas les revues culturelles à faible tirage ou encore les chercheurs universitaires qui, eux, sont un peu confinés dans leur milieu. Alors, c'est une chose sur laquelle on doit se pencher, mais en se rappelant toujours ce constat en apparence banal que, quelles que soient ces instances, dans chacune d'entre elles, on produit des jugements de valeur. Cependant, on ne fait pas de la même façon à l'université ou dans les médias, dans les radios commerciales ou les télévisions commerciales. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à l'université, il y a quand même une tentative de prendre ses distances à l'égard de la subjectivité. On cherche, il y a un mythe de l'objectivité qui perdure à l'université. Il faut constater toutefois que même là, il y a tout de même des œuvres en particulier qui sont sélectionnées et qui sont valorisées, souvent parce que ces œuvres-là permettent aux chercheurs d'élaborer un point de vue théorique ou critique. Dans les médias, ce qui est mis en valeur, ce qui domine, c'est le culte, la plupart du temps, le culte du divertissement. Ce n'est pas le lieu, semble-t-il, à la radio, à la télévision, pour décrypter les œuvres, mais plutôt pour en faire la promotion, On valorise celles qui pourront le mieux rallier la majorité. Il y a quand même des tentatives qui sont effectuées pour interroger les œuvres, pour poser un temps d'arrêt. Une de ces tentatives-là a été le combat des livres à l'automne dernier sur les ondes de Radio-Canada. C'était à l'émission de Marie-France Bazot, Indicatif présent. Alors, c'est une émission qui a fait beaucoup jaser parce que, évidemment, on a pu, à partir de là, faire quelques constatations. Alors, qu'est-ce qu'on présentait à ce combat des livres? Il y avait 5 invités et chacun présentait un roman, le défendait, cherchait à convaincre les autres que ce roman méritait d'être salué comme supérieur ou plus intéressant. Bon. Alors, ça nous a permis, je dis nous, bon, je pourrais parler au jeu, disons que je parlerai au jeu. C'est quelque chose qui m'a permis de constater qu'il est sur les ondes très difficile, en réalité, de dire quelque chose de transcendant qui sortirait des lieux communs au sujet d'une œuvre littéraire. Alors, est-ce que ce débat était nourrissant sur le plan intellectuel? À mon avis, non, même pas du tout. Je dirais même que ce combat des livres m'a donné une piètre idée de l'état de notre culture, de notre aptitude à interpréter les textes, à en exposer la teneur, à en extraire la valeur, et à rendre tout cela sensible et intelligible. Alors, je comprends parfaitement l'impératif pour une radio, l'impératif d'être vivant, qu'il y ait une parole vivante, animée. Et l'idée du combat, pour cette raison, est très bonne, puisque ça permet les confrontations, ça nous donne l'impression qu'on peut brasser des idées. Mais il en a résulté quelque chose d'assez décevant. Et l'une des lacunes que j'ai pu observer chez les participants, mis à part, et là je vais être assez sévère, mais il faut quand même le dire, mis à part un manque de culture flagrant, c'est l'incapacité d'interroger sur quel système de compréhension s'appuyaient leurs évaluations. Alors, une première question pouvait être posée, qu'est-ce qu'on attend d'un roman? Il y a eu des réponses implicites à cette question. Je dirais que, en général, les participants étaient en mesure de dire ce qu'ils attendaient d'un roman. La plupart du temps, c'était bon, qu'il soit divertissant, mais aussi qu'il fasse réfléchir, qu'il sonde les profondeurs de la psychologie humaine, ou encore qu'il mette de l'avant certaines valeurs sociales acceptées, progressistes. Mais la question suivante, au-delà de ces réactions qui sont de premier niveau, ça aurait été, je pense, de se demander en quoi cette attente qu'on a à l'égard d'un roman est-elle rationnellement défendable et à partir de quelles exigences esthétiques ou éthiques? Ce genre de questions, vous vous en doutez bien, ne plaît pas forcément à nos médias qui cherchent à augmenter leur cote d'écoute, puisque ce sont des questions qui forcément nous entraînent vers une prise de distance à l'égard de ce qui se manifeste comme engouement ou passion. Et c'est un genre de question qui nous fait entrer dans un processus réflexif qui souvent passe très mal. Enfin, c'est l'opinion qu'en ont les animateurs de radio et les directeurs de radio ou de télévision. Alors, on est dans le même monde ici. Alors, ça passe très mal. Mais en fait, on pourrait se poser la question, est-ce que des universitaires, des gens qui ont la compétence pour parler d'œuvres littéraires auraient pu faire mieux que ceux qui étaient là, qui, soit dit en passant, n'étaient pas des spécialistes, c'était des comédiens, des journalistes, des humoristes. Alors, d'ailleurs, ça, c'est une question qu'on peut poser, c'est une question sociale, sur le plan même de la valeur de l'art, de la valeur de la culture. Marie-France Bazot est une personne que j'estime beaucoup. Elle a produit d'excellentes émissions et je vois que son champ d'intérêt principal est surtout la géopolitique, tout ce qui entoure les phénomènes de société. Et lorsqu'elle traite, par exemple, de questions politiques, de ce qui se passe en Afghanistan, en Irak ou ailleurs, au Proche-Orient, eh bien, elle invite toujours des spécialistes, des gens qui sont habilités à parler de manière compétente de ces choses-là. Mais là, tout à coup, avec un combat des livres, c'est comme si on entrait dans une autre manière de faire, plus amateur. Et puis, alors, elle n'a pas jugé bon d'inviter des gens qui ont une culture, une forte et solide culture littéraire. Alors ça, personnellement, c'est une chose qui me pousse à m'interroger sur la place même qu'occupe la culture dans notre société. Et ce que je peux constater, c'est qu'on lui donne finalement une place très, très marginale et qui se confine la plupart du temps au simple divertissement. Alors, cela dit, il est facile de jeter la pierre aux médias. On peut se tourner vers soi-même aussi, si on est un intellectuel, si on est un universitaire en particulier, et se poser la question, est-ce que, de notre côté, est-ce que nous sommes capables aussi, nous qui prétendons avoir des jugements éclairés et élaborés, est-ce que nous sommes capables de les transmettre de façon intelligible et sensible? Est-ce que nous pourrions, nous, prendre la parole à la radio et avoir une parole qui serait vivante et non pas absconse. Alors, une parole qui pourrait aussi interpeller une grande partie de l'auditoire. Je ne dis pas toute la population, mais à tout le moins les auditeurs qui sont des auditeurs possédant une certaine culture et une certaine curiosité. Alors, je pense qu'on peut miser là-dessus et nous devons faire l'effort, justement, d'aller chercher les gens sans tomber dans la vulgarisation. Alors, je tenterai, moi, de trouver une posture qui conviendrait à cet objectif. C'est sans doute quelque chose qui va se dessiner au fur et à mesure avec l'expérience. Je reviens à ce que je disais plus tôt sur la crise collective au sujet de la valeur. Et je répète, on va s'en tenir au domaine de l'art. On ne parlera pas des valeurs sociales, des valeurs humanitaires ou autres. Alors, du côté même des valeurs esthétiques, notre société vit une crise. C'est-à-dire qu'on ne sait plus collectivement ce qui est digne d'être admiré. Même s'il y a des palmarès qui sont publiés toutes les semaines, que ce soit en musique populaire ou du côté du roman, mais vous aurez remarqué que ces palmarès sont établis à partir de critères commerciaux, c'est-à-dire que ce sont les disques ou les livres les plus vendus qui figurent dans ce palmarès. Alors cette crise au sujet des valeurs, elle est présente également à l'université. Elle est présente partout et c'est en réalité une crise qui est associée à la remise en question de l'autorité. Alors, cette autorité qui a toujours été vue comme un pouvoir de domination n'existe plus ou ne se déclare plus. Alors, la nuance est quand même importante ici. Selon moi, il y a encore une autorité, il y a encore une forme de suprématie qui s'exerce, mais c'est quelque chose qui s'exerce de façon occulte et qu'il est donc très, très difficile de combattre. Et je dirais, c'est une parenthèse, que l'idée même de Radio Spirale est une façon de combattre une certaine idée des médias. Qu'est-ce qu'on peut penser à partir de là? Évidemment, pour moi, l'objectif n'est pas de restaurer une domination. Je fais partie du monde de l'université, je suis un intellectuel, je ne m'en cacherai pas. J'ai donc un certain nombre de préoccupations et je conçois fort bien que ce ne sont pas elles ne sont pas partagées par l'ensemble de la population. Qu'importe, pour moi, l'important n'est pas là. On pourrait croire que je souhaiterais, moi, un retour d'une autorité de l'intellectuel au sein de la société. Ce n'est pas exactement le cas. Je pense qu'on est en fait rendu beaucoup plus loin, c'est-à-dire que pour l'instant, je n'en suis qu'à souhaiter une plus grande présence des intellectuels au sein des débats sociaux, mais des débats entourant en particulier les arts, les productions artistiques et culturelles. Alors, ce que je vois et qui me semble scandaleux, c'est cette absence des intellectuels. J'ai parlé du combat des livres, on a un bon exemple ici. On reproche souvent aux intellectuels de ne pas participer au débat, de se tenir en circuit fermé. On parle encore de la tour d'ivoire, ces images-là sont ramenées, ce sont de vrais clichés. En réalité, on peut se poser la question aussi, mais est-ce que les médias font place aux intellectuels, à tout le moins dans le monde de la culture? Alors, cette place-là est très restreinte, on le sait. Maintenant, une fois constaté ce fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Le scandale, pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de débat. C'est-à-dire que les instances en présence ne puissent plus dialoguer, ne puissent plus se confronter. Alors, de plus en plus, le monde des médias, qui normalement aurait dû être une plateforme permettant cette rencontre entre les différentes instances présentes au sein de la société, en réalité, ce monde des médias s'est mis à s'engendrer lui-même, c'est-à-dire que on n'invite plus des personnes extérieures à lui. On invite des gens qui sont déjà intégrés à la société du spectacle, excusez l'expression, un peu rabâchée. Alors, donc, il y a une position de désarroi occupée par l'intellectuel. Nous, en littérature, par exemple, nous apprécions certaines œuvres qui ont marqué le 20e siècle. Donnons des exemples, Joyce, Beckett. Alors, ce sont des exemples canoniques. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est maintenant très, très difficile d'en parler. Même plus près de nous, Hubert Aquin, on a vu lors du combat des livres précédemment évoqué que il était maintenant rendu très difficile d'en parler d'une manière ouverte. Je ne suis pas en train d'en appeler à un discours sophistiqué. Je pense à quelque chose qui serait compréhensible pour la grande majorité des auditeurs. Bon. Alors, même de ce point de vue-là, il est difficile d'en parler. Alors, moi, qu'est-ce que je propose? Moi, j'en appelle aux intellectuels, je lance un appel aux intellectuels pour qu'ils interviennent. On me dira, on n'est pas invité. Mais il faut être un peu plus dynamique, je pense, et un peu plus inventif. Alors, il faut, nous, aller au-devant. Une façon de le faire, c'est justement d'interroger des choses qui sont mises en valeur par le marché. Et le faire, mais comme des individus, et non pas nécessairement comme des représentants, soit de l'université, soit d'un groupement culturel quelconque. Alors, il y a une profonde division, une absence de dialogue, je le signalais, entre les universitaires, les créateurs aussi, et les médias. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on force un petit peu le passage pour que les gens, surtout des médias, soient forcés, obligés de nous entendre. Alors, mon parti pris est le suivant. Il s'agit de maintenir le conflit et non de chercher un consensus à tout prix. Deuxièmement, maintenir le conflit non pas en vue de l'exacerber, bien entendu, mais dans le but d'arriver à le penser, à débusquer les intérêts qui sont en jeu. Ainsi, par exemple, l'interrogation sur la valeur peut nous conduire à nous interroger sur la collectivité elle-même, sur ce qu'elle privilégie. Troisième point, je veux que derrière les jugements apparaissent les individus qui les produisent. Et ce sera l'objectif des entretiens que j'enregistrerai. J'interrogerai des gens en leur demandant de parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment moins. Et il est très important pour moi que ces voix-là ne soient pas des voix de spécialistes autorisés, qu'ils ne parlent pas au nom de quelque chose d'autre que qu'eux-mêmes. Alors, toute proportion gardée, c'est un peu une démarche que je dirais socratique. Socrate interroge des individus. Bien sûr, il veut les amener à rendre intelligible ce qui en eux est encore à l'état de confusion. Je ne me présente évidemment pas comme un Socrate, mais on peut retenir quand même l'exemple, on peut s'en inspirer. Alors, l'important, c'est qu'il y ait un corps, qu'il y ait une sensibilité derrière ces jugements qui sont émis. À partir de là, il est possible de discuter. Mais on ne peut pas discuter avec une machine, avec une organisation. Par exemple, je trouve un peu désagréable, je parle souvent des médias. Et à mon oreille, c'est quelque chose de désagréable parce que c'est trop abstrait. Qui les médias? Qui en particulier? Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions nous adresser à quelqu'un et que ce soit quelqu'un qui prenne la parole. Les médias, évoquer les médias, c'est encore trop général. Et finalement, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, quand j'entends parler des médias, ça me donne une idée un peu confuse des choses, et puis finalement, je perds de l'intérêt, parce que les médias ou la politique, ce n'est personne en particulier. Moi, je souhaite que nous interpellions des individus. Autre point, il faut savoir que si nous accordons de la valeur à un produit artistique, à un objet, à une création, c'est que nous cherchons quelque chose. Un quelque chose auquel cet objet semble nous donner accès. Et ici, je vais me permettre de me citer, puisque j'ai écrit déjà pour Spirale un article sur la critique, et je vais citer un court passage qui présente bien ma pensée à ce sujet. En commentant une œuvre, le critique parle nécessairement aussi d'autre chose. N'importe-t-il pas d'expliciter ce que comporte cette autre chose? N'importe-t-il pas de rendre intelligible au regard de quelles exigences intellectuelles, morales, sociales, spirituelles, esthétiques on évalue la portée d'une œuvre? C'est d'ailleurs uniquement de cette manière qu'on permet à l'œuvre d'aller au-delà d'elle-même, vers les autres. Et c'est là qu'on franchit le pas aussi entre ces deux pôles d'une opposition classique qui serait la valeur pour soi, la valeur strictement subjective, dire « Ah, moi j'aime Céline Dion, par exemple, ou moi je n'aime pas Céline Dion. » Bon, la valeur pour soi et la valeur en soi, qui serait, si vous voulez, la valeur dans ce qu'elle aurait d'intemporel. C'est une visée très idéaliste qui est très largement contestée. Mais disons que cette opposition-là, souvent, est mise de l'avant, même sans que les gens qui la mettent de l'avant s'en rendent exactement compte. Alors, pour moi, le dépassement de cette opposition, c'est ce que j'appellerais la valeur collective, c'est-à-dire qu'il s'agit de valeurs historicisables qui ne sont pas pérennes, qui ne sont pas nécessairement destinées à durer éternellement. Mais il reste que ce qu'on appelle la valeur en soi, c'est une visée, ce n'est pas une réalité. On ne peut jamais prétendre que telle ou telle œuvre est éternelle. Mais il reste que lorsqu'on aborde une œuvre, lorsqu'on a le goût de lui donner de la valeur, c'est qu'on y reconnaît quelque chose qui nous donne une impression d'éternité. Mais le pas à franchir maintenant, c'est pour confronter cette impression-là, qui peut être strictement subjective, c'est d'amener cette proposition sur la place publique et d'en discuter avec les autres. Et là, il y a un élément de combat qui entre en jeu, parce que si moi, je prétends que telle œuvre a le potentiel pour durer, ou à tout le moins qu'elle a un potentiel pour éclairer nos vies d'une manière profonde, pour nous nourrir d'une manière durable, si j'y reconnais, moi, une grâce, une beauté qui me semble me conduire mon esprit vers un certain idéal, alors le pas à franchir, c'est de me présenter sur la place publique et de défendre ce point de vue-là. Il ne s'agit pas de le rendre dominant, mais à tout le moins de le faire exister. Alors, c'est un peu ce qui résume mon éditorial, mais ajoutons autre chose encore, qui me fait revenir à la question que je viens d'évoquer, la question de la pérennité. Alors, quel que soit, ce que j'ai à dire là-dessus, je pourrais le résumer en quelques mots, quelle que soit la relativité des valeurs et le fait que ce qui est bon pour l'un n'est pas nécessairement bon pour quelqu'un d'autre, quelle que soit l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons d'établir une hiérarchie définitive entre les œuvres, il y a un geste qui demeure possible, un geste qui n'est pas autoritaire, mais qui est néanmoins décisif. Un geste qui donnerait à la culture une vitalité dont elle a besoin. C'est de savoir faire la différence entre divers types de valeurs, savoir faire la différence. Et c'est seulement de cette manière que peut s'effectuer collectivement l'éducation du goût. Alors, dans cette optique, juger, ce n'est pas pour moi élire ou exclure, mais c'est avant tout savoir faire la différence entre, par exemple, la démarche d'un artiste et celle d'un autre, entre différents types de production aussi. On dit souvent qu'on ne peut pas comparer des pommes avec des bananes. Alors, ça, il est important aussi quand on discute de savoir exactement où se situe notre niveau de discussion. Par exemple, il serait oiseux, je pense, de comparer Jean-Jacques Pelletier, l'écrivain québécois, avec James Joyce. Ils sont pas une démarche, ça ne se situe pas du tout dans le même lieu de la culture, et ils ont vraiment pas les mêmes ambitions. Par contre, Jean-Jacques Pelletier, on peut le comparer à un Tom Clancy, cet auteur américain qui est très très réputé, auteur de best-sellers, qui produit aussi des romans qu'on pourrait dire des romans paranoïaques, sociaux, politiques et diplomatiques, etc. Alors, de ce point de vue-là, il y aurait une confrontation intéressante à faire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Faire la différence entre ce qui est de l'ordre du plaisir immédiat et ce qui contient le potentiel d'un plaisir de longue durée. Faire la différence, on en aura un exemple dans cet entretien que j'ai eu avec Robert de Grosbois. Il parle de la démarche de Larry Tremblay dans sa dernière pièce, La Hache. Et il évoque comme point de comparaison « Violence et passion » de Luchino Visconti. Alors ici, pourquoi compare-t-il ces deux œuvres? C'est parce que leur thématique est semblable. Chacune des pièces présente un personnage, disons, d'intellectuel ou quelqu'un de cultivé qui est confronté à l'univers menaçant des jeunes générations qui, elles, sont plutôt tournées vers l'anarchie et le barbarisme, la barbarie, disons. Alors, dans les deux œuvres, nous avons donc cette mise en situation, et vous l'écouterez si cela vous intéresse. Robert de Grosbois, justement, compare ces deux œuvres de ce point de vue pour montrer laquelle est la mieux réussie, ou enfin, laquelle serait porteuse d'une réflexion peut-être plus approfondie sur un même thème. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on sait faire la différence entre un poète reconnu, classique au Québec, Saint-Denis Garneau, et des textes de chansons, prenons Jean-Pierre Ferland? Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Ferland. Certains de ses textes me plaisent énormément. Mais est-ce qu'il est poète au même titre que Saint-Denis Garneau, par exemple? Ça semble un peu banal, peut-être, comme interrogation. J'imagine que des universitaires, par exemple, des gens qui sont formés en études littéraires, trouveront que ça va de soi, qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. Mais je pense qu'il vaut la peine quand même de se poser ce genre de questions. Parce que on pense que c'est évident, mais en réalité, il suffit de tenter de s'en expliquer verbalement à des personnes qui ne sont pas nécessairement formées comme nous pour constater que c'est une idée qui n'est pas a priori très très claire. S'il y aurait une différence entre ce qu'écrit Jean-Pierre Ferland et ce que peut écrire Gaston Miron. Est-ce qu'on peut dire que l'un fait de la poésie plus élevée que l'autre? Et si on le soutient, bien à ce moment-là, à partir de quels critères continuerons-nous de le soutenir? Alors, je reviens à cette question, où est la différence? Et c'est ce qui va guider mes réflexions pendant toute cette année que je passerai avec vous au fil des émissions. Il va de soi que je n'ai pas de réponse immédiate et définitive à cette question, et je demande seulement qu'il soit possible d'en débattre avec vous le plus honnêtement possible. Et je le répète, ce que je souhaite, c'est que nous en débattions à partir de cas concrets. Je viens de donner des exemples ici. Nous pourrons dépasser ces exemples et peut-être arriver à dire que finalement, on cherche à comparer ce qui n'est pas comparable, mais au moins, si on arrive à dire pourquoi ce n'est pas comparable, on aura fait un grand bout de chemin. Alors, je veux résumer maintenant, pour terminer, en conclusion, quelques principes de base qui seront, si vous voulez, la ligne éditoriale de cette émission. Premièrement, il n'y a pas de valeur absolue. Je le pose en principe de base. Deuxièmement, par contre, qui pourrait nier qu'il y ait du meilleur et du moins bon, du signifiant et du moins signifiant, du riche et du pauvre, etc. Alors, cette petite question nous oblige, même si on a prétendu qu'il n'y avait pas de valeur absolue, nous oblige quand même à dépasser le simple relativisme nihiliste qui met tout à plat. Il n'y a pas de valeur absolue, mais il est quand même possible de s'interroger sur la valeur. Et non seulement c'est possible de le faire, mais c'est vital. Je pense, moi, que c'est vital pour notre culture. Troisième point, la mise en place des valeurs nécessite un combat. Quatrième point, c'est de ce combat que naît une culture vivante. L'imposition d'une valeur excluant toutes les autres conduit certes à la stérilité, mais inversement, le relativisme conduit au nihilisme et à l'insignifiance. Pire encore, j'ajouterais, il conduit à la dictature du marché, des intérêts économiques, qui, faute de débat, décide de tout. La confrontation des valeurs entraîne des actes de parole à travers lesquels une culture peut être élaborée. Alors, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de dominer, mais d'arriver à dire et à nommer ce que l'on juge le plus beau, le plus vrai, le plus enrichissant, le plus stimulant, le plus inspirant. Le nommer pour le partager. Notre émission, donc, sera un lieu où les préférences non seulement savoureront, j'aime bien le petit jeu de mots ici, savourer, s'avouer, où non seulement les préférences savoureront, mais surtout se déclineront en faisant l'épreuve d'une explicitation. Alors là-dessus, je vous dis au revoir. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter ensemble. J'espère que j'aurai l'occasion d'approfondir cette réflexion amorcée aujourd'hui avec vous. Au revoir.